La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Jean Renoir est né en 1894 dans une grande maison bourgeoise de Montmartre qu'on appelait le Château des Brouillards. Un nom sans doute prédestiné car Renoir, c'est le nimbe d'un certain flou qui permet la rêverie, qui admet les licences, qui autorise de défendre que chacun ait ses raisons. Car Renoir était un homme qui savait concilier les contraires et qui a cherché à se débrouiller au mieux avec la vie, comme nous l'avons vu au cours de notre première émission biographique, à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Dans notre prochain épisode, nous serons en compagnie de Philippe De Vita, qui propose un dictionnaire du cinéaste aux éditions Honoré Champion. Avec lui, nous parlerons notamment de la volonté de Renoir d'être aussi un auteur au sens d'un écrivain. Et puis, pour terminer cette série, nous nous intéresserons au rapport entre le père et le fils, car le cinéaste était le deuxième enfant d'Auguste Renoir, le célèbre peintre impressionniste. Et aujourd'hui ?
Let's dance, là. French coco, French coco. En piste.
Aujourd'hui, pour une traversée de la filmographie de Jean Renoir, nous sommes en votre compagnie, Charlotte Garçon. Bonjour à vous. Vous êtes avec nous ?
Oui. Eh ben, vous m'entendez ?
Voilà, je vous entends bien. Vous êtes rédactrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma, dans sa nouvelle mouture qui date de mai 2020. Les Cahiers du cinéma qui... on l'a déjà mentionné hier, ont toujours accordé une grande place à ce cinéaste qu'il surnommait le patron, Charlotte Garçon. C'est toujours le cas, c'est toujours le patron pour les Cahiers du cinéma.
Alors, en ce qui me concerne, oui.
Vous ne pouvez pas parler pour tout le monde, évidemment.
Il n'y a pas un jour où je ne pense au film de Renoir, je dois dire.
Ah oui, à ce point-là.
Un rapport entre, oui, entre les... Ils sont tellement, il y en a tellement et ils servent dans la vie. Un cinéma, ça, le cinéma, ça sert aussi à apprendre à faire son lit, comme disait Jean Eustache. Et c'est vrai que beaucoup des critiques des Cahiers du cinéma sont aussi devenus des cinéastes et qui ont continué à entretenir un rapport avec Jean Renoir. Je pense à François Truffaut, excellent critique avant que d'être cinéaste et ami de Renoir.
À qui d'ailleurs Renoir avait donné un très grand entretien en 1957, justement dans les Cahiers, avec Jacques Rivette.
Oui, c'est l'autre grand cinéaste de la Nouvelle Vague qui a dialogué avec Jean Renoir, et d'ailleurs Michel Simon, puisqu'il y a ce merveilleux film où on les voit tous les deux attablés et se souvenir comme ils ont aimé travailler ensemble.
Et vous avez fait un petit peu du coup la même chose en 2007 quand vous avez publié une monographie sobrement intitulée Jean Renoir dans une coédition Le Monde, les Cahiers du cinéma. Vous commenciez d'ailleurs par citer Éric Rohmer disant « Renoir contient tout le cinéma ».
Ah oui, je pense comme lui. Oui, c'est vrai que c'est le troisième cinéaste de cette génération et qui a écrit aussi au Cahier du cinéma à avoir hérité de Renoir à bien des aspects. Et l'un de ces aspects, c'est le rapport de Jean Renoir au réalisme.
Oui, on va en parler justement parce que c'est très important et puis c'est le titre d'ailleurs de cette émission. Mais sur cette idée encore que la Nouvelle Vague est vraiment faite d'héritiers de Renoir, qu'est-ce qu'au fond la Nouvelle Vague a tant aimé chez lui ?
Alors, sans doute une liberté, mais aussi quand même, je dirais, un rapport avec l'acteur. Une vraie affection, je trouve pas d'autre mot, pour l'acteur, et donc un respect aussi pour son travail. Mettre au centre du cinéma, du travail, à partir des années 30, quand le cinéma est devenu parlant, surtout pour Renoir, une écoute de l'acteur, une façon de mettre en scène qui permette à l'acteur de véritablement travailler dans la continuité, et non pas, pour des raisons esthétiques et techniques, de couper, de fragmenter toujours son travail. Bon, je pense que ça, cette importance de l'acteur, c'est quelque chose qui se retrouve quand même dans le cinéma de la Nouvelle Vague, même s'il se donne parfois des allures formalistes. Au fond, la Nouvelle Vague a pensé la mise en scène, mais elle l'a pensé non séparée de ce rapport à l'acteur et de cette fascination pour l'acteur. Du fait qu'un film est toujours, ça c'est aussi un grand concept de la Nouvelle Vague, est toujours aussi un documentaire sur ses acteurs, sur son tournage.
Et aujourd'hui, qui pourrait se revendiquer justement un petit peu de cette même manière de filmer, de ce même rapport aux acteurs ?
Alors, entre la nouvelle vague et nous, il y a peut-être quand même, disons, Maurice Pialat, dont je pense qu'il est... qu'il a beaucoup vu le cinéma de Renoir et qu'il en est de toute façon presque par tempérament un héritier sur ce que c'est que ne pas tuer la vie quand on la filme. Oui. Donc ça c'est aussi en lien avec le réalisme et ce qu'on entend par ce mot. Et puis de nos jours, je suis sûre que beaucoup de cinéastes actuels ont beaucoup vu de films de Renoir.
Kechiche peut-être.
À Arnaud Desplechin, oui, à Abdelatif Kechiche, qui recherche aussi une sorte de patte à malaxer, qui serait la fluidité, un rapport au temps où il n'y ait pas toujours des coupures. D'autres gens, peut-être. Oui, peut-être Arnaud Desplechin aussi.
Il faut dire qu'il y a le choix, hein, 34 films, 5 courts-métrages, et puis tout cela dans différents genres. Jean Renoir a vraiment expérimenté tout azimut.
Oui, il a même commencé par véritablement expérimenter au sens matériel du terme. Vous aviez parlé hier de ses essais dans la céramique, puisqu'il n'a pas osé faire de la peinture à cause de l'héritage de son père. Mais on pourrait dire qu'il a aussi expérimenté la technique d'abord, avant de réfléchir au récit et de vraiment aimer les acteurs.
Dans cette vie, hélas ou tant mieux, personne n'a raison, personne n'a tort. Personne n'est blanc, personne n'est noir. Tenez, quand je suis arrivé dans la cavalerie, et la cavalerie joue un grand rôle dans mon roman Le Capitaine Georges, Les Cahiers du Capitaine Georges, quand je suis arrivé dans la cavalerie, j'ai appris une chose. Comme tous les gens venant du civil, j'ai dit, tiens, voilà un cheval noir, tiens, voilà un cheval blanc. Quelle erreur! Il n'y a pas de chevaux blancs, il n'y a pas de chevaux noirs. Il y a des chevaux baies foncées, baies bruns, et il y a des chevaux gris clair.
Alors on va essayer de chercher un peu des fils rouges aussi de l'œuvre de Renoir dans cette émission pour tenter de mieux la comprendre. Est-ce qu'on vient pas déjà d'en trouver un donné par l'auteur lui-même dans cette grande empathie qu'il y a dans son cinéma, ce cinéma qui ne juge pas ses personnages, qui cherche à les comprendre? Est-ce que ça vous paraît être une constante, Charlotte Garçon?
Oui, bien sûr, le point d'aboutissement sera bien entendu la règle du jeu, avec cette phrase terrible et qui n'est pas prononcée par n'importe quel personnage, mais par Octave, le personnage joué par Jean Renoir lui-même, et qui dit ce qu'il y a de terrible sur cette terre, c'est que tout le monde a ses raisons. C'est une phrase célèbre, mais...
Qu'est-ce qu'elle veut dire au fond ?
Elle veut dire que ça, c'est quelque chose de déchirant, c'est-à-dire que l'empathie, vous appelez ça de l'empathie, mais c'est une forme de tiraillement aussi. C'est tragique, d'une certaine façon, de pouvoir se mettre à la place de tout le monde, parce que comment décider, comment prendre position, comment trancher ? La grande chance de Renoir, c'est qu'il a compris que la fiction est... Même quand elle est une fiction sur un médium analogique comme le cinéma, eh bien, elle permet de concilier ce qui, du point de vue, par exemple, moral ou politique, serait inconciliable. Donc, les histoires, à partir du moment où il y a une histoire, eh bien, oui, il y a des personnages qui n'ont pas à être ou tout noir ou tout blanc. Et ça, c'est une grande chance que la fiction.
Et ça permet sans doute de résoudre une tension interne à Jean Renoir, une tension peut-être même psychologique, de projeter comme ça sur écran ces divisions et de les rassembler.
Oui, alors là où je nuancerais, c'est que je pense qu'il ne résout pas cette tension, qui au contraire, il la maintient, il tend les choses au maximum. Soit dans des dilemmes psychologiques que peuvent avoir des personnages, mais plus sûrement dans l'articulation entre la forme et l'histoire, si vous voulez. Et ça, puisque vous parliez de fil rouge, ça se traduit par exemple dans une thématique qu'on retrouve dans plusieurs de ses films et qui serait la question des frontières, par exemple, et qui va aboutir, enfin, de manière à être parachevée d'une certaine façon, dans le film le plus connu, le plus gros succès de Renoir, qui était La Grande Illusion en 1937.
On aura le temps aussi de revenir, je l'espère, sur ce grand thème. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on pourrait comme ça énoncer au début de cette émission? Je ne sais pas, les classes sociales, la question de l'amour, quels seraient vraiment les grands thèmes de Renoir, Charlotte Garçon?
Alors, je ne pense pas que penser sous forme de thème soit rendre justice justement à ce rapport à l'ambivalence et à l'ambiguïté que permet la fiction chez Renoir. Mais en tout cas, il traverse effectivement exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire Par exemple, donc je disais la question des frontières, ce ne sont pas seulement les frontières entre pays, les frontières géographiques, ça peut être les frontières entre classes sociales. Et dans beaucoup de ces films, la différence entre les classes sociales est manifeste, mais c'est pas tant de représenter cet état de fait qui l'intéresse, auquel cas on serait dans du cinéma social, disons lambda, mais plutôt de montrer comment les classes entre elles non seulement luttent, mais aussi s'attirent, se côtoient, se frôlent, et dans une forme d'érotisation, de ce frottement, on pourrait dire, qui va trouver un premier point de rencontre en 1931 dans La Chienne, où un petit bourgeois un peu mal marié va s'amouracher d'une femme qui se prostitue, sans le lui dire, qui va essayer de vivre à ses crochets. Donc ça, c'est La Chienne en 1931, le premier chef-d'œuvre, je pense, de Renoir. Et puis, érotisation, voilà, de ces points de contact entre les différentes classes sociales, aussi dans French Cancan, le film de son retour en France au milieu des années 50, et où il raconte l'histoire du Moulin Rouge, à savoir, comme dit son créateur, joué par Jean Gabin, de la canaille pour millionnaires. C'est-à-dire qu'on va inviter les gens riches, les bourgeois, à venir s'encanailler et avoir l'impression qu'ils peuvent venir guincher avec la pègre. Donc vous voyez qu'il y a un rapport vraiment érotisé aussi entre les classes.
Vous avez donc commencé véritablement votre carrière cinématographique vers 1923 avec La Fille de l'eau.
Oui, c'est ça. Oui, c'était d'ailleurs une tentative. D'ailleurs, tout ce que vous savez, la vie est absolument faite de hasard. Tout ce que l'on croit faire, on ne le fait pas. Ce que l'on ne croit pas faire, on le fait. J'ai fait ce film avec la naïve ambition d'imiter un film américain. Cette ambition ne s'est pas réalisée. Mon film n'avait pas du tout l'air d'un film américain. Il était très français. Et surtout, une partie qui était un rêve, dans lequel Catherine Hessling dégringolait d'un cheval et tombait dans les nuages, n'est-ce pas? Et ce rêve était assez réussi. Ce qui me plaisait au départ, c'était surtout les trucages. Je ne rêvais que de trucages. L'idée d'écrire un scénario ne me venait pas, ça ne m'amusait pas. Je n'ai commencé à écrire que poussé par la nécessité, simplement parce que les textes que me donnaient certains auteurs ne me semblaient pas être des textes cinématographiques, ne me semblaient pas convenir à l'expression du cinéma et ne me semblaient pas être faciles à dire pour les acteurs. Alors j'ai commencé à écrire des textes moi-même, puis finalement j'ai écrit mes scénarios et mes histoires.
Oui, et vous avez aussi transposé, enfin, des romans à l'écran. Et vous avez choisi, plus particulièrement, un grand romancier que vous aimez certainement beaucoup, c'est Zola.
Et j'aime Zola, j'aime un côté de Zola. En général, on aime Zola pour son naturalisme, j'aime Zola pour sa poésie. Je crois que Zola est un des grands poètes du 19e siècle, et c'est ce côté-là qui me touchait. Néanmoins, sa réputation de naturaliste le forçait à rester tout près de la réalité de la rue. Et je pense que cette réalité de la rue était nécessaire à cette époque-là, mais était nécessaire à ma carrière cinématographique, à ma connaissance du cinéma. J'ai l'impression que c'était une bonne chose que de baser mon départ au cinématographe sur l'observation rigoureuse des petites réalités de la vie.
Jean Renoir, interrogé par André Bazin en 1956. C'est étonnant, Charlotte Garçon, quand même, cette entrée de Renoir au cinéma. On a l'impression qu'il y vient un peu par tous les biais possibles, sauf vraiment le cinéma en lui-même. Bon, il faut dire que le cinéma est loin d'être très vieux quand il s'y adonne, quand il commence à en faire. Mais d'un côté, on a l'impression qu'il veut faire plaisir à sa femme et que c'est pour en faire une vedette qu'il fait du cinéma. Il dit à l'instant que ce qu'il aimait, c'était expérimenter. Mais quelles sont finalement les motivations, les vraies motivations de cette entrée comme ça de Renoir au cinéma selon vous ?
Alors moi je crois qu'il c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il se cherche, il cherche justement le désir qu'il a pour le cinéma, qu'il ne comprend peut-être pas d'emblée et qui lui semble extérieur au départ, puisque ça lui semble être une demande de cette jeune femme qu'il a épousée et qui veut être une vedette. Et qui a un petit côté de Chaplin dans sa gestuelle, et il va en jouer. Donc là, on parle de Catherine Hessling, sa première épouse.
Parce que lui admire beaucoup Chaplin.
Et il, voilà. Et en fait, quand il dit qu'il la met en scène, qu'il fait du cinéma pour la mettre en scène, il oublie de préciser qu'il met aussi, du coup, en scène son héros cinématographique de l'époque, à savoir Charlot. Donc, en fait, il travaille aussi pour lui ou pour le cinéma. C'est pas uniquement pour elle. Et de fait, elle veut sans doute être très glamour, très belle, etc. Mais nous, ce qu'on voit, c'est plus une sorte de mélange entre une tentative, une tentation hollywoodienne et, oui, un petit bonhomme, enfin, une femme qui ressemble à un petit bonhomme et qui a des mimiques qui font un petit peu penser à Chaplin.
Alors Chaplin, c'est pas forcément du réalisme. Quelle est la place justement de cette idée d'un cinéma réaliste issu de Zola chez Renoir dans ses débuts ?
Alors, à mon avis, le réalisme de Renoir n'est pas tout à fait issu de Zola. Et d'ailleurs, c'est très beau, je trouve, qu'il dise que c'est la poésie qu'il aime chez Zola et pas son réalisme. Il y a une part d'esprit de contradiction, mais je crois qu'on voit ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il a très bien vu, en lisant Zola, d'ailleurs Zola qu'il a vu étant enfant venir voir son père, que ce n'est pas tant l'aspect naturaliste, ce n'est pas cette théorie du naturalisme qui est le plus intéressant, mais ses qualités littéraires. Donc, au fond, l'aspect poétique... créatif que cela apporte. Donc je pense que la part de réalisme qu'on a dès le premier film qu'il signe, c'est-à-dire La fille de l'eau dont il parlait, elle est presque malgré lui, hein. Il dit voilà, je croyais faire du cinéma américain, mais en fait c'est très français, et c'est vrai que les films des années 20 qui se passent sur une péniche, ben, on en connaît d'autres et ils sont très français. Donc c'est presque un réalisme malgré lui, un goût du détail qui fait qu'il va s'apercevoir au fur et à mesure que son goût des trucages, son goût de la stylisation n'est pas le seul goût qui le mène vers le cinéma, et que le cinéma a ceci de fascinant que, qu'on le veuille ou non, c'est un médium qui capte la réalité. Et ça c'est évidemment une différence fondamentale avec, par exemple, la peinture. Ça a l'air d'être une platitude, mais en réalité, c'est ce qui fait que Renoir s'avance vers un réalisme qu'il va lui-même théoriser. C'est-à-dire que dans ses mémoires au milieu des années 70, il réfléchit sur les différentes formes de réalisme qu'il a pu traverser. Il appelle ça d'abord un réalisme extérieur, et puis il chemine vers un réalisme moins évidemment tape à l'œil, disons, et qui serait ce qu'il appelle un réalisme intérieur.
D'une autre réalité, alors ?
Alors, ce n'est peut-être pas tout à fait une autre réalité. Disons que ce ne sont pas les apparences de la représentation de la réalité, c'est-à-dire un cinéma qui serait social, par exemple, uniquement social. Mais c'est un cinéma qui ose utiliser l'artifice, la stylisation, le jeu, et une part donc de transformation, oui, de théâtralité, pour atteindre à la représentation de quelque chose de vrai et de vital qui serait ce que lui appelle le réalisme intérieur.
Bon, après il y a quand même Nana qui est une adaptation de Zola, donc ça n'est pas tout à fait hors de son propos quand même que de représenter, je ne sais pas, la classe ouvrière par exemple, la bête humaine aussi, c'est quand même une représentation de la classe ouvrière, de cet homme qui fait la ligne Paris-Le Havre en train, Jean Gabin, il y a un côté justement Zola, y compris avec le train, avec l'industrie. Est-ce qu'on retrouve quand même pas un petit peu cet univers, cette atmosphère?
Oui, vous avez raison, mais c'est un appétit documentaire, je dirais, qu'il partage avec son acteur. Hein, après Michel Simon, son acteur, disons, favori, aimé, c'est Jean Gabin. Et Jean Gabin est un enfant par rapport à une locomotive. C'est-à-dire c'est la locomotive au sens figuré du film. Hein, c'est grâce à lui, financièrement, que La Bête humaine peut se monter en tant que production. Et il le fait parce qu'il veut conduire réellement une locomotive. Et donc, il y a aussi cet appétit-là du réalisme qui vient de son acteur, par exemple. Mais bien sûr, on est, en tant que spectateur, c'est admirable quand il montre les cheminots en train de se faire leur frichetis en bas du dortoir où ils sont logés au Havre, par exemple, et on les voit vraiment à la cuisinière en train de vider leur boîte de haricots ou leur tranche de jambon dans la poêle. Donc, le réalisme extérieur, entre guillemets, Renoir le maîtrise absolument. Mais il va, au cours des années, comprendre qu'il faut aussi, en tout cas pour lui, dans sa logique d'une forme de progrès dans son propre parcours, qu'il faut aller au-delà.
Il faut mépriser la technique. Une caméra, c'est fait pour vous servir, et qu'on n'est pas là pour servir la caméra. Dans beaucoup de productions,
C'est exactement comme le dieu Baal. Je pense que la comparaison du dieu Baal, vous savez, hein, on jette des petits enfants dans le brasier, c'est assez proche. Mais d'un autre côté, alors, comme il n'y a pas de vérité absolue, on dit ça et les gens risquent d'en conclure qu'il ne faut pas connaître son métier. Ce qui n'est pas vrai, il faut le connaître très bien, au contraire, il faut le connaître à fond pour pouvoir l'oublier. On peut même imaginer que les techniques, étant, si vous voulez, l'existence, peuvent déterminer des styles, peuvent déterminer le fond. C'est l'histoire de la peinture impressionniste. Avec des amis, nous discutions de cela, et quelqu'un a émis cette idée que j'ai adoptée, que je garde, que l'aventure impressionniste est en partie due à l'invention de la couleur en tube. Avant cette époque, avant 70, si vous voulez, avant 65, les couleurs des peintres étaient dans des petits pots, des petits godets. C'était donc très difficilement transportable. Lorsqu'on a eu l'idée de mettre les couleurs dans des tubes en plomb, on pouvait prendre ces tubes dans sa poche ou dans une boîte, les transporter et aller peindre sur nature. Donc, c'est une... Parmi les raisons, évidemment, ce n'est pas la raison principale de l'essence de l'impressionnisme, mais enfin, c'est une des raisons qui certainement ont aidé à l'avènement de l'impressionnisme.
Avec Michel Delahaye. Renoir a donc aimé aussi cet aspect-là du cinéma, les trucages d'ailleurs dans La Petite Marchande d'Allumettes en 1928. Vous dites d'ailleurs, Charlotte Garçon, qu'il y a traduit la féerie d'Andersen en autant de prouesses techniques, avec d'ailleurs l'aide d'un ingénieur américain installé à Paris. C'est donc un ingénieux, un bricoleur.
Au début, oui, je pense qu'il y a cet attrait-là de jouer, vraiment c'est presque des jouets, les instruments techniques. Mais plus le cinéma va devenir quelque chose de professionnel, avec l'arrivée du son notamment, et plus ces expérimentations vont être faites en collaboration avec des chefs de poste, et notamment son directeur de la photographie de tous ses débuts, des années 30, Jean Bachelet. Et qui va expérimenter avec lui, et puis tout le travail de Joseph de Bretagne au son, puisque vous savez que Jean Renoir travaille avec du son direct, ce qui semble impossible aujourd'hui, alors qu'on parle de films qui datent du début des années 30, comme Boudu par exemple, ou La Chienne.
Alors ça, il a compris tout de suite qu'il fallait prendre le son en direct et qu'il fallait pas l'ajouter plus tard.
Alors, je ne sais pas s'il le faut, mais en tout cas, lui, il y tient parce que, justement, c'est ce travail du réalisme. Ça n'est pas tellement pour une idée de véracité ou d'authenticité, ça n'est pas une question, disons, morale, mais plutôt formelle. Qu'est-ce que mettre en scène avec des bruits qui ont été effectivement là, présents, dans le moment du tournage? Donc je crois qu'il y a aussi là le travail avec l'acteur qui est fondamental. Ça paraît fou de faire doubler par un acteur sa propre voix, si on peut éviter. Alors des fois techniquement c'est impossible parce qu'il y a des interférences, des bruits d'extérieur, mais quand c'est possible, bien sûr, le son direct c'est quelque chose de précieux.
Mmh. Quitte à ce que ce soit drôle, comme dans On purge bébé, qui est un des premiers films où il y a du son comme ça enregistré directement par Renoir, et le bruit d'une chasse d'eau fait sensation à l'époque dans ce film.
Oui, alors là, il y a quelque chose de subversif dans cette pièce de Feydeau et dans la première apparition chez Renoir de Michel Simon, avec une histoire d'une commande de pot de chambre. Enfin voilà, on est vraiment dans les coulisses de quelque chose d'un peu scabreux, mais effectivement, ce son direct, par le fait même de la trivialité de l'objet, c'est une sorte de coup d'éclat. Mais par la suite, ça va être beaucoup plus intégré au récit et ça va être beaucoup moins voyant comme utilisation du son direct.
Alors qu'est-ce que l'apparition finalement des dialogues va changer dans l'écriture de Renoir, qui est un de ces cinéastes qui a merveilleusement réussi à passer du muet au parlant, contrairement à d'autres?
Oui, c'est vrai qu'il aurait pu le rejeter, comme son cher Chaplin. En fait, Chaplin a aussi très très bien intégré finalement le son, mais ça a été très long et compliqué. Renoir, il reconnaît d'abord une chose, c'est que tout de suite il y a un rapport au théâtre. À partir du moment où il y a à nouveau du dialogue, enfin, et donc où le dialogue s'introduit au cinéma, d'une certaine façon, c'est le théâtre qui s'impose au cinéma. Mais ça ne veut pas dire qu'on va faire du théâtre filmé. Ça, ce serait le piège. Puisque Renoir sait très bien, parce qu'il a expérimenté avant l'arrivée du parlant, que le cinéma, c'est une grande liberté de déplacement de la caméra, de mobilité, toute chose que le spectateur de théâtre n'a pas. Il est coincé dans son point de vue, dans son point de vue éloigné, sur son fauteuil. Donc, le spectateur de cinéma ne bouge pas non plus de son fauteuil, mais la caméra bouge pour lui. Et ça, ça change tout dans les valeurs de plan, ce qu'on appelle les valeurs de plan, donc les gros plans qui sont une chose très très importante dans l'histoire du cinéma, et notamment d'abord muet. Mmh. Donc, l'arrivée du son, c'est à la fois des expérimentations sonores, mais aussi, on pourrait dire, l'arrivée du théâtre en bloc dans le cinéma, et comment faire pour en tirer tout ce que Renoir a envie d'en tirer, mais sans se laisser écraser par une forme qui préexiste et qui serait voilà, cette forme quand même déjà ancienne qu'est le théâtre.
C'est pour ça que vous dites, avec le parlant fini, l'hypnotisme du gros plan.
Oui, c'est-à-dire que ça n'est plus un rapport, ça n'est plus un art directement nouveau comme il a pu être considéré par toute une avant-garde des années 20. C'est-à-dire, et d'ailleurs que Chaplin, avec laquelle Chaplin était au fond d'accord, c'est-à-dire, attention, si on réintroduit le dialogue, alors on va régresser, on va faire du théâtre filmé. Renoir, lui, a compris que d'autres voies de mise en scène étaient possibles. Ça, alors concrètement, dans ces films, vous remarquerez qu'il y a, j'allais dire presque toujours, dans les films, quel que soit leur sujet, quel que soit leur récit, un moment de spectacle. Une forme de spectacle. On a même beau être dans un camp de prisonniers pendant la Première Guerre mondiale, dans la Grande Illusion en 1937, et ben il y a un moment où les prisonniers vont mettre en scène un spectacle, une sorte de spectacle de patronage, voilà. Et il y aura toujours dans les films de Renoir un moment où il y a une scène et puis une salle, et il y a une rampe entre les deux. Il y a une frontière, justement, une frontière de plus, mais une frontière cette fois-ci poreuse. Donc le théâtre, il est intégré de mille façons, très très ingénieuses, dans les films de Renoir. Ça peut prendre aussi une forme un peu plus dure, un peu plus radicale, qui est dans La Chienne. Au début de La Chienne, il y a un prologue qui est en fait un petit théâtre de Guignol où on présente le film, mais avec des marionnettes de Guignol, ce qui fait un petit peu penser à l'opéra de 4 sous de Brecht, que Renoir avait vu d'ailleurs au théâtre. En Allemagne, voilà. Donc ça peut être un procédé de distanciation, ou bien ça peut être thématisé dans une histoire, des gens qui se mettent à faire une pièce.
Et puis le dernier film de Renoir, c'est quand même Le Petit Théâtre de Jean Renoir.
Bien sûr, bien sûr. Donc toujours penser les choses en termes de deux espaces, mais qui sont des espaces mentaux aussi, et d'une espèce de ligne imaginaire qui serait cette rampe qui sépare des gens sur scène et des gens dans la salle, mais on ne trace cette ligne que pour mieux la franchir. Le franchissement ultime, vous le voyez à l'écran dans French Cancan, le film de 1953, puisque le concept de ce nouveau cabaret, c'est de faire surgir, c'est d'envahir la salle depuis la scène et d'envahir la scène depuis la salle, de mettre les spectateurs quasiment sur scène et d'aller, de venir danser sur leurs genoux, littéralement, de s'asseoir sur les genoux des spectateurs.
Et quelle est la signification, selon vous, de cette frontière entre la vie, le théâtre, la fiction?
Alors c'est une interrogation, je pense, d'artiste, on pourrait dire, une interrogation, on pourrait dire, théorique de cette frontière que tout artiste sans doute a, qui est une interrogation biographique pour soi, et puis une interrogation qui traverse tout l'art. Alors elle est même dite dans un dialogue à la fin du Carrosse d'or par le personnage joué par Anna Magnani, qui est une actrice de Commedia dell'arte, mais qui en fait devient, on pourrait dire, une actrice beaucoup plus profonde et tragique, et qui pose cette question de la frontière entre le théâtre et la vie, et comment, quand on est une actrice ou un acteur, c'est pas si facile de séparer les deux. Je pense que Renoir se tient exactement, essaye de se... j'allais dire de se camper, mais en réalité c'est plus comme un funambule sur cette frontière-là.
Alors vous ne trouvez pas, monsieur Lestingois, sérieux?
D'abord, il ne me connaissait pas. Il ne m'avait jamais vu. Pourquoi qu'il m'a repêché? Moi, je cherche. J'avais peut-être besoin d'un domestique. ferait comprendre.
Peut-être... Ah, vous allez finir, m'embêter, vous voyez, si vous fouillez. Allez, monsieur Dessin, monsieur, vous devez appeler monsieur Dessin, moi, si vous
continuez. Dessin, ouais, Dessin, ouais. Quand je dis merci.
Oh, mais fichez-moi donc la paix pour une fois. Il serait rudement volé dans ce cas-là.
J'ai jamais dit merci à personne.
Je m'en doutais.
Ah.
Oui.
J'ai deviné ça toute seule.
Toute seule. Vous m'en avez bien.
Un extrait de Boudu, Sauver des eaux, avec Michel Simon et Marcel Aigna. Qu'est-ce que vous en pensez de ce film, Charlotte Garçon? Est-ce que, alors ça a été un très grand succès, mais est-ce que c'est un film qui fait vraiment rupture dans la carrière de Jean Renoir?
Alors, on pourrait croire, comme il est tiré d'une pièce, voilà, qu'il y a quelque chose d'un petit peu vaudevillesque, justement théâtral. En réalité, je pense que non. C'est-à-dire qu'il y a deux choses géniales qui sont liées dans le film. D'abord, bien sûr, c'est le travail de Michel Simon. Que la mise en scène de Renoir, à qui la mise en scène de Renoir fait place. Il s'agit de laisser travailler vraiment un génie.
Donc il accepte que l'acteur principal puisse être finalement plus intelligent que lui-même dans son propre film?
Oui, que lui-même, ou en tout cas que le matériau de départ, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on peut faire un très bon film avec une mauvaise pièce. Ça, je pense que Michel Simon et Renoir sont d'accord là-dessus. Et puis, on pourrait dire que Renoir se représente lui-même dans la figure de ce fameux libraire qui va recueillir le clochard boudu chez lui, puisque en fait, il est en train de ce libraire est à sa fenêtre en train de mater, on dirait aujourd'hui, les femmes dans la rue.
Les chevilles.
Avec une longue vue. Voilà, il les regarde passer quand il aperçoit ce beau clochard. C'est-à-dire qu'il en a jamais vu un d'aussi beau, c'est-à-dire d'aussi complet, avec toute la panoplie de clochards. Et puis, il le voit tenter de se suicider en se jetant dans la Seine. Donc, on pourrait imaginer que ce libraire plein de bonnes intentions, mais aussi plein d'un désir, d'une pulsion scopique irrépressible, c'est un peu Renoir qui en filmant Michel Simon, a cet appétit-là, tout simplement, de le regarder bouger, de l'entendre parler, de le regarder dans ses gestes, dans la façon dont il mange une sardine à l'huile à la main, dans la façon dont il fait comme Charlie Chaplin, il va s'essuyer les chaussures, se cirer les chaussures avec les rideaux. C'est aussi ça, c'est-à-dire de montrer ce que c'est que l'arrivée du corps Michel Simon dans un intérieur petit bourgeois. Et comment la mise en scène, les mouvements de la caméra peuvent montrer la subversion quasiment politique. Enfin, il y a quelque chose d'anarchisant dans la façon dont il va réorganiser l'espace d'abord, il va désorganiser l'espace, les habitudes de ce petit couple et de leur bonne, et puis ensuite les relations entre monsieur et madame et la bonne.
Un peu comme dans Théorème de Pasolini. Écrivez-vous dans une comparaison qu'on n'attendrait pas comme ça spontanément.
Oui, c'est un peu exagéré de le comparer à ce film des années 70, mais il y a effectivement, je pense, une puissance politique de cela, parce qu'il s'agit de tout désorganiser, mais contrairement à la pièce d'origine, le personnage du clochard ne va pas en retirer les dividendes pour ensuite devenir lui épouser la bonne et devenir un petit bourgeois parce qu'il a gagné au loto. Il va gagner tout ça et puis il va le rejeter. Donc c'est ça aussi le geste finalement très libre et anarchisant de Renoir lui-même à la fin de Boudu.
Est-ce que vous avez l'impression que Renoir s'incarne lui-même régulièrement dans un de ses personnages ou dans plusieurs?
Oui, c'est toujours tentant de voir le créateur dans ses différents.
D'autant qu'il joue dans un certain nombre de films.
Oui, alors parfois on a l'impression qu'il joue un petit peu timidement ou par défaut. C'est le cas du personnage de Cabuche, mais qui est quand même un coupable tout désigné dans La Bête humaine. Donc c'est intéressant de se jouer dans une espèce de rôle de faux coupable. Et puis parfois on voit qu'il est timide parce que son frère était un grand acteur. Et que c'est comme avec le père, on ne peut pas être peintre. Est-ce qu'on peut être acteur quand on est le frère d'un grand acteur? Et puis il y aura le rôle finalement d'Octave, où là il s'agit de jouer un metteur en scène dangereux, un metteur en scène, un acteur raté, un metteur en scène dangereux. Donc c'est très très complexe ce qu'il arrive à faire dans le personnage de Renoir. Mais en tout cas, on pourrait dire que, indépendamment des rôles qu'il a lui-même interprétés, ce qui est intéressant, c'est que Renoir ne se projette jamais ou rarement dans un seul des personnages de ses films. Et du coup, cette complexité dont on parlait au début, elle se ressent aussi dans le paradoxe que dans un film comme Le Fleuve, son premier film en couleur, son film américain tourné en Inde en 1950, eh bien, il va, à mon avis, se projeter tout autant dans un jeune homme qui revient avec une jambe en moins de la guerre, puisque vous l'avez dit hier, sa blessure de guerre à la jambe, elle l'a hanté toute sa vie, on pourrait dire qu'elle le fera même mourir à la fin de sa vie, et il se projette tout autant dans le personnage principal de The River, du fleuve, qui est une jeune fille, une petite fille de 12 ans, une sorte de vilain petit canard qui est pas la plus jolie de son entourage et de sa fratrie et qui apprend à être écrivain, qui sent qu'elle a une vocation d'écrivain et qui pense que ce qu'elle veut aimer, mais en fait elle veut surtout écrire, qu'elle n'arrive pas à aimer.
Donc est-ce que dans French Cancan par exemple, il ne serait pas un peu le directeur de revue qui invente le Moulin Rouge?
Oui, alors on pourrait dire que il a à peu près, disons, l'âge du personnage de Danglars, cet entrepreneur de cabaret, qui est donc un entrepreneur de spectacle, qui est un homme de spectacle, qui va aller repérer des danseuses et les recruter. Évidemment, ça fait penser à un metteur en scène, hein, qui dégote des talents et qui invente un lieu et un décor pour qu'il donne le meilleur d'eux-mêmes. Donc bien sûr qu'il se projette forcément dans ce personnage. Avec cette scène très belle de Gabin, d'Anglars qui, de derrière les coulisses, quand il y a l'ouverture du cabaret avec le premier French Cancan, il est en train de refaire les pas lui-même, hein, il lève la jambe et puis il a toute la chorégraphie en tête. Bon, ça c'est très beau de montrer que, bah oui, on ressemble pas à une danseuse de French Cancan, mais finalement on est un petit peu cette danseuse. Sauf que dans French Cancan, on pourrait tout autant dire qu'il se projette aussi dans le personnage de la jeune fille de Nini qui comprend, qui découvre aussi sa propre vocation et qui découvre la difficulté que ça peut être de vivre pour son art. Éventuellement de sacrifier, disons, ses amours ou une certaine idée de l'amour à son art.
Tony est une sorte de phénomène dans votre carrière cinématographique.
Oh, ça correspond à mon désir absolument, mais brûlant de travailler sur nature. Tony est basé sur une histoire que mon ami Mortier, qui est ici à Nice maintenant, m'a racontée. Il était commissaire de police de Martigues à l'époque. Il m'a raconté l'anecdote, et de là, j'en ai tiré une petite histoire. Et puis voilà, c'est tout. Mais on a tourné sur place avec ou des acteurs professionnels locaux ou des acteurs non professionnels. Et surtout, tout a été tourné dehors, dans des vraies maisons. Enfin, c'est avec de la vraie eau. Et
des vraies fleurs et une vraie campagne.
Des vraies fleurs, une vraie campagne. Enfin, ça a été une collaboration étonnante. Mon neveu Claude commençait sa carrière de chef opérateur. Je pouvais tout essayer là-dedans, techniquement et humainement. Il y avait une liberté absolue parce que le film ne coûtait pas cher, n'est-ce pas? Non, je garde un très grand souvenir de Tony. Je ne dis pas à cause des résultats, mais à cause de la manière dont ce film a été tourné. Et dans ce pays des Martigues, qui est extraordinaire, qui est magnifique.
La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Jean Renoir, au micro de Robert Sadoul en 1958. Alors on prend pas les films dans l'ordre, Charlotte Garçon, parce que finalement c'est l'œuvre qu'il faut considérer un petit peu dans son entier. Avec Tony, il y a plusieurs thèmes qui se dégagent. Il y a d'abord cette idée du tournage en extérieur, du rapport peut-être à la Méditerranée. C'est aussi un film des années du Front Populaire, un film là encore d'un réalisme qui est politique. Qu'est-ce qui vous retient dans ce film et dans l'extrait de l'interview qu'on vient d'entendre, Charlotte Garçon?
Alors c'est un film qu'on commence à nouveau à voir puisque Gaumont l'a restauré tout récemment et l'a ressorti en Blu-ray. Donc à nouveau il circule, mais c'est vrai qu'il a été peu vu ces dernières années pour cette raison assez technique finalement. Tony, c'est intéressant que Renoir en parle comme un plaisir et une réussite d'expérimentation plus que de résultats. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a vraiment un lien quasiment de généalogie entre Tony et par exemple le néoréalisme italien, ce mouvement dont on peut dire qu'il a été inauguré par Luchino Visconti avec Les Amants diaboliques au Sessione en 1942. Or, Luchino Visconti a assisté Renoir, a été l'assistant de Renoir sur le film qui va commencer à tourner après et qui est Parti de campagne. Donc, c'est intéressant de voir que c'est ce moment-là qui va vraiment se concrétiser pendant la guerre et après-guerre en Italie est déjà à l'œuvre chez Renoir, à savoir pour le coup un réalisme assez extérieur, au sens où on tourne le plus possible en extérieur et en décor naturel, et où plus que réellement les conditions de tournage, parce qu'on peut aussi recréer une partie en studio, enfin voilà, c'est pas tant la lettre de l'extérieur que un sens des lieux, de la topographie, de comment la mise en scène, y compris les rapports entre les personnages, les crimes, hein, parce que très souvent dans les histoires de Renoir, il y a quand même une histoire de meurtre, on en parle peu, mais il y a
le crime de Monsieur Lange aussi fait partie un petit peu de cette période.
Tout à fait. Ce sont vraiment des films qui formellement sont un peu différents parce que le crime de Monsieur Lange qui date de l'année suivante est aussi co-écrit, enfin avec Jacques Prévert. Donc il y a un côté beaucoup plus écrit, beaucoup plus clos aussi dans son utilisation d'un décor qui est un décor de studio, qui est juste une sorte de décor unique, qui est la cour d'un immeuble parisien. Mais au fond, ce qu'ils ont en commun ces deux films, c'est de travailler justement déjà sur un lieu qui est une forme de frontière, puisque vous l'avez dit, Tony, ça se passe dans le sud de la France, à Martigues, et ce qui est un lieu d'immigration, et c'est dit dans un carton d'ouverture du film, ça c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que le drame qui va se dérouler, le drame amoureux et de classe qui va se dérouler, se déroule parmi le milieu des immigrés italiens.
Oui. L'action se situe en pays latin, là où la nature détruisant l'esprit de Babel sait si bien opérer la fusion des races. Ça c'est un extrait du carton que vous citez.
Oui, c'est vraiment une frontière. Je disais que le fil rouge de la frontière se retrouve dans toute son œuvre. C'est un lieu qui a la frontière et c'est aussi bien sûr une frontière de classe, puisque entre guillemets le méchant, celui qui va épouser la femme qu'aime Tony, c'est le Parisien. C'est vraiment le contremaître parisien qui vient, qui ne comprend rien au lieu, justement, qui ne comprend rien, qui n'aime pas la ratatouille, oui. Qui n'aime pas les tomates.
Comment peut-on ne pas aimer la ratatouille?
Ou les tomates, les pommes de terre, c'est une opposition nord-sud qu'on va retrouver dans la Marseillaise quelques années plus tard. Donc bien sûr qu'il y a un côté terroir, on pourrait dire, mais c'est jamais un folklore. Ça n'est pas du tout un folklore provençal tel qu'on pourrait l'imaginer. Je pense que croire que parce que Renoir a tourné dans le sud où il avait une maison de famille, où son père a beaucoup lui-même peint et travaillé, ça signifierait que Renoir est un peintre de la Provence folklorique. C'est évidemment méconnaître ce qu'il tourne, comment il tourne et le rapport au lieu que sa mise en scène met en œuvre.
Alors, en ce qui concerne une partie de campagne, il y a aussi un petit peu cette idée qu'on est à la fois dans une satire un petit peu de la petite bourgeoisie et en même temps dans un poème élégiaque. Il y a ces deux choses toujours un petit peu en parallèle et on a même du mal à décider de ce qui prend le pas sur l'autre.
Alors oui, dans une partie campagne qui est un drôle de film puisqu'il le tourne en 1936 mais il le laisse inachevé pour aller ensuite tourner les bas-fonds et ce sera finalement son équipe, ses collaborateurs et notamment sa monteuse et compagne Marguerite Houlet qui vont finaliser véritablement le film, son montage. Donc c'est très étrange comme un moyen-métrage, ce qui est resté comme un moyen-métrage inachevé, est en fait pour nous, avec le temps, devenu quelque chose de tout à fait complet, une œuvre quasi parfaite.
Mais alors justement, c'est une œuvre parfaite, mais un petit peu à l'insu de son auteur.
Oui, c'est très bizarre. Soit on se dit que, comme moi, on adore tellement Renoir qu'on projette la perfection partout et que même l'imparfait devient quelque chose en soi de parfait. Donc là, ce serait un regard, c'est un peu rhétorique. Soit on se dit que, dans son intuition d'artiste, abandonner cela et laisser sa petite équipe un petit peu quand même sur le bord de la route après avoir commencé un tournage où ils étaient tous très très proches, où il y avait un petit côté colonie de vacances assez joyeuse et relations quasi amoureuses entre les...
Ce qui va bien avec le sujet du film d'ailleurs.
Voilà. Tout ça était être un metteur en scène, c'est aussi mettre en scène les conditions du tournage pour que les acteurs soient justement en condition d'interpréter les situations.
Et puis aussi du coup saisir la beauté de la pluie qui tombe sans cesse durant cet été-là sur la campagne qui est censée être filmée par Renoir et du coup faire de ce défaut l'une des grandes qualités du film.
Oui, alors ça, je n'ai plus exactement en tête la genèse. Il me semble que ces plans de pluie ont été justement pris par Claude Renoir.
Son neveu.
Oui, donc le chef opérateur du film, Alors, soit quand Renoir était déjà parti, soit pendant, et qu'ensuite ils ont été un petit peu intercalés, mais de manière tout à fait réussie, parce que du coup, ce qui était, comme vous le disiez, une satire de la petite bourgeoisie directement tirée de la Nouvelle de Maupassant, devient aussi autre chose et devient beaucoup plus actuel dans la mélancolie de tout amour, ou dans l'espèce de, on pourrait dire, de fossé qu'il peut y avoir entre les sexes, y compris sur les attentes autour de ce que ce serait un coup de foudre. Et après, comment le temps s'enclenche de manière différente pour un dragueur du dimanche et pour une jeune fille qui jouait un petit peu son va-tout amoureux avant de se ranger et d'épouser l'homme qu'elle doit épouser parce que ses parents le lui ont assigné. Donc cette espèce de mélodrame, au fond, là je suis en train de décrire une intrigue, une dynamique de mélodrame. Il est dans la nouvelle, mais il est encore plus porté par la mise en scène, y compris dans son inachèvement.
Je crois que malgré soi, on suit la même idée, peut-être pas pendant toute sa vie, mais pendant une grande partie de sa vie. Je crois même que certains auteurs, et de très grands auteurs, ont raconté la même histoire toute leur vie. Ils l'ont raconté sous une autre forme, où ils en ont découvert de nouveaux aspects, ils l'ont rendu plus vrai. Ils ont marché vers la vérité intérieure qui est derrière toute fiction. Ils s'en sont approchés. Je suis convaincu, par exemple, que mon père a peint un tableau, que c'est le même tableau qu'il a peint lorsqu'il avait 13 ans et qu'il débutait, et lorsqu'il avait 80 ans et qu'il allait mourir.
Oui, mais est-ce que vous-même, vous sentez, comme moi, vu de l'extérieur, cette même pensée essentielle qui est la même dans les trois films ?
Oui, je le sens d'autant plus qu'elle correspond à ma conviction profonde, elle correspond à l'espèce de croyance que j'ai dans les qualités de l'homme, sans être aveugle, mais j'ai ma petite conception de la nature humaine et j'essaye de l'exprimer et j'essaye de convaincre un public de partager mes idées, bien que je ne sois pas tellement sûr qu'elles soient les meilleures, mais enfin, elles sont les meilleures pour moi.
Entretien avec Roger Régent qui soulignait ce qu'il considère comme une continuité entre trois films, La Grande Illusion, La Marseillaise et La Règle du Jeu, qui raconterait un petit peu la même histoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Charlotte Garçon ?
Oui, dans la mesure où La Règle du Jeu, en fait, c'est vraiment un point d'achèvement immense de l'œuvre de Renoir. Il est non seulement en pleine possession de ses moyens, mais il s'aperçoit, je pense, au moment où il le tourne et juste après l'avoir tourné, qu'il a touché un point nodal.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui est différent, finalement, avec La Règle du Jeu ? Qu'est-ce qui change à ce point-là ? Presque l'histoire du cinéma.
Alors on pourrait dire que pour Renoir, comme il le dit, ça n'est pas un changement, c'est-à-dire que ça n'est pas une rupture, mais c'est un point où se noue le mieux, où se tisse, s'intertisse le mieux tout ce qu'il a mis en œuvre avant, de manière un petit peu moins maîtrisée, un petit peu plus hésitante ou partielle. Je parlais tout à l'heure de la façon dont il a compris très tôt que le théâtre était maintenant intrinsèque au cinéma, enfin qu'il y avait une forme de théâtralité que le cinéma avait avalée et digérée. On pourrait dire que La Règle du Jeu, qui s'inspire entre autres des Caprices de Marianne, d'Alfred de Musset, mais aussi de Marivaux, de Beaumarchais, etc., les a parfaitement intégrés. C'est-à-dire que c'est on pourrait dire que c'est une forme de marivaudage entre les maîtres et les domestiques.
Est-ce que c'est une histoire
dans un château ?
C'est une histoire, voilà, on peut en deux phrases redire de quoi il s'agit. C'est une fête finalement, une fête de la belle époque, dans des milieux aisés, alors qu'on danse sur un volcan.
Oui, alors oui, enfin pas tout à fait de la belle époque, on croit qu'on...
De l'entre-deux-guerres.
Voilà, c'est plutôt, on entend les bruits de bottes. C'est comment faire entendre les bruits de bottes, là qui sont quand même très très forts, puisqu'on est en 1939, tout en les métaphorisant, tout en ayant l'air de parler de gens qui se divertissent, en faisant une grande fête dans un château, loin de tout, et en faisant une partie de chasse quand même. Là on commence à entendre les bruits de bottes quand on pense à la partie de chasse comme quelque chose d'allégorique. Mais le film n'est pas seulement une façon de dire attention, attention Europe, attention classe privilégiée, tu danses sur un volcan et tu ne te rends pas compte que ça va t'exploser à la figure. Bien sûr qu'il y a cela dans la règle du jeu, puisque l'un des plus innocents, l'un des personnages les plus innocents, qui est le héros national, l'aviateur qui vient de faire une prouesse, hein, ça c'est le film s'ouvre là-dessus, et bien qui est un invité un peu occasionnel et qui est l'amoureux, le nouvel amant de la maîtresse de maison. Et c'est quand même lui qui est sacrifié, qui est le bouc émissaire de tout le monde. Donc là, il y a cette menace très très directe de mort. Bien sûr que le film porte cette charge, mais là où il est extrêmement accompli, c'est qu'il porte aussi tout le travail sur le théâtre qu'a fait Renoir jusqu'à présent, sur l'intégration d'une forme de théâtralité dans son cinéma, à savoir comment faire pour que justement rien n'ait l'air théâtral, que tout ait l'air fluide, et pourtant on a plusieurs décors, on a des gens qui montent une pièce où ils font une danse macabre notamment, et beaucoup de chansons pour un petit public local dans la grande maison, dans le château. Voilà, comment tous ces moments, comment tous ces gros blocs narratifs font une seule coulée. Comment on a un maître de maison qui est passionné d'automates, et qu'est-ce que ça veut dire de montrer quelqu'un qui est passionné d'automates?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, je pense que ça entre en tension dans le film avec la première machine du film, qui est en fait, enfin, les deux machines qui ouvrent la règle du jeu et qu'on oublie, parce qu'après il y a tout ce récit un petit peu théâtral et amoureux. Mais en fait, le film s'ouvre sur un reportage radio, puisqu'on est à la radio, on l'oublie pas. C'est-à-dire qu'on a une journaliste qui tire le fil de son micro, comme ça, qui est à l'aéroport du Bourget et qui va faire un reportage sur l'arrivée de cet aviateur. Donc l'autre machine, c'est l'avion Chaudron, voilà, dont on a tout le descriptif technique. Le film s'ouvre.
Donc c'est une critique de la modernité aussi, à travers ça ?
Disons que la radio est censée retransmettre en direct la vérité, une forme de vérité, puisque c'est le reportage à chaud et en direct. En réalité, on va s'apercevoir dans tout le reste du film qu'elle véhicule tout aussi bien le mensonge. Et il y a un autre outil de la sorte, qui est la longue vue qu'utilise un personnage à la chasse pendant la partie de chasse, et qui voit deux autres personnages s'embrasser. Et la longue vue, on fait l'article de cet outil optique en disant grâce à cette longue vue, vous allez voir la vie intime des animaux, etc. Comme si c'était une définition presque de la caméra et du réalisme. Prendre une caméra, c'est pouvoir mettre la vraie vie sous un microscope. Mais bien sûr que Renoir dit cela et il dit son contraire. Parce que voit le personnage? Quelque chose qui est faux. Il voit un baiser qui, en réalité, est un baiser de rupture. Donc c'est pas du tout le commencement d'un amour, c'est la fin de cet amour.
D'où le quiproquo.
Voilà.
La règle du jeu est un très grand tournant. Dans mon existence de metteur en scène et d'auteur de films, c'est pas la règle. Dans les films précédents, je m'étais beaucoup plus attaché à l'expression individuelle. En réalité, j'étais encore, et je le suis toujours, mais enfin de moins en moins, je l'espère, j'étais encore un peu influencé par ce que l'on appelle la psychologie, par cette maladie du 19e siècle. Nous sommes redevables à Freud, je crois, d'une quantité de saloperies sur les écrans, n'est-ce pas? Enfin, quoi qu'il en soit, dans la règle du jeu, j'ai commencé à mieux comprendre les questions d'ensemble. J'ai commencé à mieux comprendre que les scénarii basés sur des sentiments de groupement, sur des sentiments enfin, si vous voulez, j'ai mieux compris que le monde était non seulement divisé en individus, il l'est, mais était aussi divisé en petits carrés et en petits ronds, à l'intérieur desquels évoluent des hommes liés par les mêmes intérêts, ou quelquefois par la même naissance, quelquefois par les mêmes craintes. Autrement dit, j'ai commencé à passer du cinématographe où seul l'individu m'intéressait à un cinématographe dans lequel les groupes m'intéressent.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
En s'entretient en 1955. Alors le public, la critique ont été déstabilisés par ce film. C'est sans doute l'une des raisons de l'exil de Renoir aux États-Unis. On peut terminer peut-être cette émission, Charlotte Garçon, avec les films américains de Renoir. A-t-il été réellement un réalisateur américain, ou est-ce que finalement son espèce de réalisme un peu sophistiqué n'a jamais pu réellement s'accorder au cinéma hollywoodien?
Alors, un peu beaucoup sophistiqué, effectivement, et il faut être en possession soi-même de ses moyens, avoir des collaborateurs qui ont compris en profondeur votre démarche, des acteurs aussi qu'on respecte, mais qui sont aussi dans la même logique, pour mener à bien ce type de sophistication à la fois formelle et disons, thématique.
Donc il ne pouvait pas faire ça aux États-Unis ?
Il me semble qu'il s'aperçoit que le système des studios et sa division des tâches est plutôt qu'être une aide et une sorte de boulet et une forme d'entrave. Alors ce n'est pas à dire que ces films américains ne sont rien, pas du tout. Ils sont intéressants en tant que tels, mais par rapport au point de perfection qu'il a pu atteindre avec La Règle du jeu, ou même à son retour en France avec French Cancan, ou même aux expérimentations qu'il fait dans Le Fleuve, effectivement, l'œuvre américaine est peut-être moins intéressante.
Donc c'est drôle parce que il revient en France, il fait un film, c'est French Cancan, et c'est quand même un chef-d'œuvre.
Oui, alors moi je trouve, mais je pense qu'on peut aussi, certaines personnes sont un petit peu mises à distance par le côté, enfin que certains appellent kitsch, des couleurs par exemple, le fait que les couleurs ne sont
pas justement... un petit peu.
Ben c'est pas une palette réaliste, ou en tout cas elles ont le réalisme du souvenir déjà, puisque French Cancan se trouve à la belle époque, c'est-à-dire quand vraiment au moment où Jean Renoir naît, et dans le Montmartre réimaginé et en studio. Donc, mais tout ça est très choisi. C'est pas malgré lui. C'est pas. Et puis ça n'est pas. Enfin, il y a toute une coordination, tout un travail des couleurs qui est tout simplement qui n'est pas ce réalisme extérieur qu'on pouvait attendre. Donc, ça peut déstabiliser. Renoir laisse derrière lui le réalisme social des années 30, et ça, je pense qu'on ne lui a jamais pardonné. Puisqu'on l'a quand même surtout connu en France comme étant le cinéaste social des années 30.
Lily, c'est une teigne. Lily, c'est n'importe quoi qui arrive bien ici. Lily, pense à nous, ne laisse pas tomber.
Qu'est-ce qui se passe?
Votre fille, madame.
Elle fait encore sa mauvaise tête. Couvre, Lily. Vos mains, c'est ta mère.
Ben, j'aime encore mieux tes paires de claques. Allez, viens.
Lily, sois pas vache. Tu les entends?
Je reste à une condition. Danglars pour moi toute seule.
Tu veux Danglars, quoi? Tu veux me mettre en cage comme un canari? Ben, je t'en préviens, ça durerait pas longtemps. Quelques semaines au vert à brouter l'herbe ensemble et puis tu pourrais même plus me supporter. Quoi, tu veux Danglars? Danglars du spectacle, moi, Danglars en pantoufle. Tu n'as jamais mis, c'est pas aujourd'hui que je commencerai. Écoute, ma petite Nini, je vais te donner un bon conseil. Si c'est un avant que tu veux télégraphier Alexandre, tu pourras jamais mieux trouver. Et si c'est un mari, bah épouse Polo. T'as le choix. D'un côté, les bijoux, les fourrures, la grande vie, et de l'autre côté, la sécurité et la vieillesse heureuse au coin du feu. Et dans l'honneur et dans la dignité. Mais moi, je peux pas te donner tout ça. Regarde-moi bien, est-ce que j'ai une gueule de prince charmant? Hein? Pour moi, il n'y a qu'une chose qui compte. C'est ce que je crée.
Voilà sur cet extrait de French Cancan qu'on se quitte. Merci beaucoup Charlotte Garçon d'être venue nous parler aujourd'hui de Jean Renoir à travers ses films principaux. Pour aller plus loin, on peut évidemment se référer à votre monographie de ce cinéaste dans un livre paru en coédition Cahier du cinéma Le Monde et qui s'appelle tout simplement Jean Renoir. C'était La Compagnie des œuvres, une émission proposée par Laurence Millet, Laurence Genepin, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Romain Billet et Jacques Hubert. Demain, on continue de parler de Jean Renoir. Ce sera en compagnie de Philippe De Vita, l'auteur d'un dictionnaire, Renoir chez Honoré Champion. Il nous dira en particulier pourquoi le cinéaste se pensait également comme un auteur de livres. Et tout de suite, c'est les sciences sur France Culture.